Bienvenue sur
Les Ados de la Radio,
présenté par
Sarah,
Gabriel,
Cléa,
Alphonse,
Raphaël,
Chloé,
Lindsay.
Pour illustrer cet hiver froid et glacial, nous allons vous présenter notre émission sur Noël. Avec Chloé et son focus sur le fameux prix des incorruptibles, une chronique intéressante sur le pourquoi et comment Noël est devenu une fête plus commerciale que religieuse, une chronique dorée et colorée sur les marchés de Noël avec Gabriel et Sarah, qui vous peaufineront vos connaissances sur l'origine des marchés de Noël. On enchaîne avec une chronique écologique sur l'impact environnemental de Noël, avec un zoom sur le gâchis alimentaire et les sapins de Noël. Avec ça, une interview d'un électricien qui nous explique comment et quel impact ont l'installation des décorations de Noël dans les villages. Raphaël va ensuite nous donner son avis sur une discussion libre, sur offrir un animal à Noël, qu'est-ce qu'on en pense. Lindsay et Alphonse nous parlent d'animaux avec leur chronique sur les rennes et les manchots. Qu'est-ce que la légende des rennes et quel est le mode de vie des manchots?
Chloé va nous faire son focus sur le prix des incorruptibles et nous donner son avis sur l'un des livres de la sélection.
Tout d'abord, notre classe de 3e participe au projet des incorruptibles. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un prix de littérature jeunesse décerné chaque année par des élèves issus des classes de maternelle jusqu'au lycée. Nous avons eu 4 romans à lire et parmi ces 4, je vais vous présenter mon préféré, Rita, de Marie Pavlenko. C'est un roman choral, c'est-à-dire une fiction où s'alternent les points de vue des personnages. Qui est Rita? Que lui est-il arrivé? Tour à tour, élèves et professeurs racontent leur année de terminale, celle qu'ils ont vécue. Vigo, l'amoureux fou, Romane, l'ami attentionné, Timour, le copain décalé, tous brossent un portrait de Rita. Une ébauche tendre, mais dramatiquement incomplète. Car si leur histoire dit l'amour, le désir, l'amitié, chacun avoue aussi être passé à côté du drame. Personne n'a rien vu venir. Cette jeune fille que la vie n'a pas épargnée, qui se bat chaque jour pour manger. Ce personnage que l'autrice nous fait découvrir tout au long du récit, par les témoignages de ses amis. C'est ainsi que l'autrice et sa plume m'ont fait dévorer ce livre en une soirée. On s'y prend vraiment. Rita est divisée en deux. Celle qui lutte pour survivre et celle qui est avec ses amis et qui ne leur révèle pas ce qu'elle fait pour survivre, par honte et peur du rejet. Les valeurs retransmises sont fortes. Rita a vécu tous les malheurs du monde, le harcèlement, la misère et le suicide de son père. Ce que personne ne veut vivre. C'est un livre touchant, émouvant, parlant de beaucoup de sujets sensibles. C'est avec ces livres-là qu'on se rend compte du malheur que doivent endurer certaines personnes, que notre monde n'est pas tout rose. Je vais vous lire mon passage préféré, celui qui m'a le plus touchée. Je n'ai même pas besoin de fermer les yeux pour revivre ce moment. Il est de ceux pendant lesquels on a une conscience aiguë de la magie de l'instant. On attrape la peau du temps, on le retient de nos mains fébriles et on se dit « maintenant ». Maintenant, tout peut s'arrêter, se figer. Oui, si maintenant le monde s'immobilise soudain, je serai heureux pour l'éternité. Pour finir, un grand bravo et toutes mes félicitations à Marie Pavlenko. J'envie son écriture et son imagination.
Merci Chloé pour cette magnifique chronique littéraire. On enchaîne sur la thématique de Noël avec la question comment et pourquoi Noël est devenu une fête plus commerciale que religieuse.
Cette tradition d'offrir des cadeaux à l'occasion de Noël a une importance à la fois sociologique et économique. En effet, les achats de Noël représentent une dépense obligée pour honorer les liens que l'on entretient avec les uns et les autres. Mais également, le Père Noël moralise et cautionne la consommation et permet à la famille de gâter leurs enfants et leurs petits-enfants. L'importance économique de Noël pour les entreprises de différents secteurs qui font parfois jusqu'à 75% de leur chiffre d'affaires à l'occasion de Noël n'est plus à démontrer. La dépense globale par ménage pour les cadeaux de Noël se situe autour de 282 € en France en 2021. Il faudrait aussi limiter l'impact environnemental associé aux fêtes de fin d'année. D'après cette étude de l'ADEME, les Français offrent en moyenne 6,5 cadeaux, soit environ 300 millions de cadeaux offerts chaque année à Noël. Parmi ces cadeaux, près de 12 millions ne seraient jamais utilisés. Par ailleurs, les cadeaux sont responsables de 57% des émissions de gaz à effet de serre lors des fêtes de fin d'année et l'alimentation. La période des fêtes est aujourd'hui largement associée à la consommation de masse, souvent marquée par des campagnes publicitaires intensives, des promotions agressives et une forte incitation à l'achat de cadeaux. Et de plus en plus de jouets sont achetés sur Temu ou Shein. Mais ces jouets, envoyés directement chez soi depuis des usines asiatiques, sont-ils sûrs? Des prix très attractifs, un choix immense, mais plusieurs de ces jouets fabriqués majoritairement en Chine ont été testés dans un laboratoire français et 80% d'entre eux sont non conformes aux normes européennes. Certains représentent même un danger, à l'exemple d'un Hochet vendu seulement 6 euros, qui avec une facilité effrayante peut être démonté et laisse apparaître de nombreuses vis. En chiffres, 57% de ces jouets présentent un risque réel pour les utilisateurs. Certains soulignent même des risques d'intoxication, de brûlure ou encore d'étouffement. À la fin des repas, il ne reste rien sur la table et dans le frigo une importante quantité de nourriture. Même si une partie peut repartir chez les invités sous forme de tupperware, le reste finit malheureusement dans les poubelles. Selon une étude réalisée en novembre 2023 par YouGov à la demande de l'application anti-gaspi tout goût, 8 Français sur 10 s'apprêtaient à gaspiller des produits alimentaires en période de fête, malgré l'inflation. Parmi eux, 14% des 18-24 ans estiment gâcher plus d'un quart de la nourriture et 6 personnes sur 10 achètent plus d'aliments par peur de manquer. Pourquoi et comment on nous pousse à consommer ? En moyenne, chez lui, chaque Français jette 29 kg de nourriture par an, ce qui représente au total un repas par semaine et l'équivalent de 108 euros par année et par personne. Mais lors de Noël, la surconsommation est beaucoup plus active qu'au quotidien. Peut-être parce que de nombreuses personnes s'autorisent quelques entorses aux règles du quotidien, c'est un petit plaisir qu'on s'offre spécialement pour cette fête. Mais aussi car la publicité et les médias encouragent à ces comportements. En effet, les magazines, les catalogues de Noël et les nombreuses autres pubs, ainsi que les marchés de Noël, poussent à la surconsommation. À cette période de l'année, les médias et les réseaux sociaux véhiculent une certaine pression sociale du bonheur. Partout, des images de familles parfaites, des décors scintillants ou encore des mets succulents passent sous nos yeux et nourrissent l'idée de vivre une période enchantée. Comment faire bonne figure quand tout le monde autour affiche un grand sourire et qu'on a l'impression d'échouer ? À côté de la pression sociale du bonheur, il y a aussi la pression de satisfaire et de renvoyer la meilleure image. Craignant d'être jugé pas assez à la hauteur, les gens mettent la barre très haute pour préparer les meilleurs plats et éblouir leurs invités au détriment de leurs propres limites et capacités. Des festivités, des cadeaux et des repas copieux, d'autres peuvent vivre des difficultés financières qui rendent cette période plus difficile. La célébration de Noël s'accompagne d'une série d'attentes sociales, cadeaux, décorations, grands repas. Des dépenses qui peuvent exercer une pression financière supplémentaire sur les ménages déjà fragilisés. D'après une étude IFOP pour Dons Solidaires, plus d'un tiers des Français craint de ne pas pouvoir offrir des cadeaux de Noël ou alors en nombre limité. Ces attentes sociales peuvent devenir de véritables sources de stress et d'inquiétude. Bien que Noël reste l'une des fêtes les plus importantes auprès des Français, appréciée par 85% d'entre eux, on observe une baisse d'enthousiasme cette année à 76% contre 83% en 2023. En effet, entre les dépenses, l'organisation, les obligations sociales, plus d'une personne sur deux indique ressentir une certaine pression durant les fêtes de fin d'année.
Merci Chloé pour cette chronique très intéressante. Et si maintenant on voyait le bon côté de Noël avec une chronique sur les marchés de Noël présentée par Sarah et Gabriel.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des marchés de Noël avec moi-même déjà, Sarah et Gabriel. Cette chronique va donc être une discussion libre. Et on va commencer par parler des origines de ces fameux marchés de Noël. Déjà, les premières traces des marchés de Noël remontent au XIVe siècle en Allemagne, sous l'appellation de marché Saint-Nicolas.
Le premier marché de Noël d'Allemagne serait celui de Bautzen, qui existerait depuis 1384. Et le premier document relatant un marché de Noël est daté de 1434. Sous le règne de Frédéric II de Saxe, évoquant un Strinzelmarkt qui a eu lieu à Dresde le lundi précédent Noël.
Un renouveau a eu lieu au milieu des années 1990. De nombreuses villes en Europe ont instauré leur propre marché de Noël avec des chalets et parfois des attractions. On peut d'ailleurs retrouver des patinoires éphémères, des grandes roues ou même dans certains marchés de Noël, des petites montagnes russes qui sont montées. Putain. Du coup, les marchés de Noël sont aujourd'hui beaucoup commerciaux. Déjà, on pourrait commencer à rentrer dans une chose un peu plus dans le thème d'une discussion, puisque nous avons énoncé toutes les origines des marchés de Noël. Alors, par exemple, toi, es-tu déjà allé dans un marché de Noël ou celui où tu vas plus souvent ?
Alors oui, je suis allée dans certains marchés de Noël. Donc il y a celui de Dijon, en Côte d'Or. Et bah, du coup celui d'Agnan, parce que bah, j'habite à Agnan, du coup, bah, c'est oui. Le plus proche. Toi, est-ce que tu as fait certains marchés
Alors moi, par exemple, il y a 2 ans ou 1 an, je ne sais plus, je m'en souviens plus trop, j'étais déjà partie au marché de Strasbourg, qui est un marché immense avec plus de 300 chalets et un énorme sapin. Il est énorme. Et on dit souvent que c'est le plus beau marché de Noël avec toutes les décorations qu'ils mettent en place, et etc. Mais toi, tu disais aller à Agnan, mais du coup, est-ce qu'il y a des particularités sur ce marché de Noël ?
Il y a tout ce qui est donc, la crèche grandeur nature dans la chapelle des pénitents, la forêt magique du Père Noël juste à côté. Il y a plusieurs chalets sur la place qui vendent des bijoux, des sculptures en bois, des cafés, des gaufres, tout ce qui est nourriture, bijoux, accessoires, etc. On a plusieurs stands dans la rue principale qui vendent de tout, chaussettes, pilou-pilou, tout ce qui est sculpture en bois. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Mais je trouve que cette année, il n'y a pas beaucoup de ventes de bijoux. Ou alors, s'il y en a qui sont assez de qualité, ils sont là pas très longtemps. Donc là, par exemple, j'en ai vu une, ses bijoux sont de très bonne qualité. Elle n'a pas beaucoup de clients, mais elle reste que 3 semaines. Et là, la semaine-là, c'est la dernière semaine où elle est.
D'accord. Tu as parlé de la forêt magique du Père Noël. Tu pourrais m'en dire plus ?
Bah, du coup, dans la forêt magique du Père Noël, il y a tout ce qui est ours polaire, ours polaire, lutin, tout ce qui est cendrillon, enfin tout ce qui est conte Disney. Et certains moments, je ne sais pas quand, il y a le Père Noël qui vient pour faire les photos avec les petits. Et la Mère Noël aussi. Et il y a beaucoup de... On peut prendre une photo avec un grand ours où on peut s'asseoir dessus, qui est assez bien. Laissons la parole à Clélia qui va nous parler de l'impact écologique des installations de Noël et interview un professionnel qui a travaillé dans ce domaine.
Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer le professionnel Soas Moutel qui a travaillé dans la mise en place des décos de Noël. Il est électricien pour Bouygues Énergie et Services. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail ?
Bonjour. Notre métier porte sur l'éclairage public des communes, l'installation et la maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques et en période de fin d'année aux illuminations de Noël dans les communes.
À quelle période vous installez les décos de Noël ? Vous installiez les décos de Noël ?
Tout dépend de la commune. Une ville comme Montpellier, où le nombre de motifs, d'arbres est très important, le début des installations peut commencer dès octobre. Tout dépend aussi des effectifs déployés. Pour des villages, cela peut prendre que quelques jours seulement.
Combien de temps met-on pour installer une déco ?
Un motif simple qu'on peut trouver fixé sur un mât d'éclairage public se pose en environ 15 minutes. On le pose à l'aide d'un ruban métallique qu'on appelle feuillard et nous accédons à la hauteur voulue à l'aide d'une nacelle.
Comment sont branchées les décos ?
Les décos sont raccordées sur le réseau d'éclairage public. Ils s'allument donc en même temps.
Y a-t-il énormément de dépenses énergétiques ?
Aujourd'hui, l'intégralité des motifs sont équipés de LED, beaucoup moins énergivores que des ampoules classiques.
Est-ce que la faune sauvage se coince dans les décos ?
Je n'ai pas encore rencontré ce type de situation.
Question sur la pollution lumineuse des villes.
Les décorations sont installées généralement là où il y a du passage, les centres-villes, les rues importantes. Des endroits déjà éclairés en période normale. Certaines communes décident de couper l'éclairage public dès minuit.
Vous en pensez quoi des décos par rapport à l'impact écologique ?
Comme je disais, aujourd'hui, toutes les décorations sont en LED. Les fabricants s'efforcent de réduire la consommation de leurs produits. C'est un bien par rapport à avant où une saison pouvait peser sur l'écologie. C'est surtout le moyen d'apporter un peu de magie et de bonne humeur.
Merci beaucoup, Monsieur Soas, pour ces réponses. Les fêtes de Noël contribuent fortement à l'empreinte carbone au Royaume-Uni. Les 24-26 décembre représentent 5,5% de l'empreinte
annuelle. Les comportements typiques, kilométrage, alimentation et cadeaux peuvent s'ajouter pour aboutir à environ 650 kg de CO2 par personne. Et le secteur du sapin et des transports ajoute aussi un coût carbone important, soit près de la moitié de la norme annuelle. Pour rester dans les limites de l'objectif climatique plus de degrés, cela signifie de même qu'une courte période de fête peut compromettre les efforts annuels de réduction des émissions. Ce phénomène est particulièrement visible dans les pays développés, là où la consommation augmente considérablement pendant la période de Noël. Nous allons parler du gâchis alimentaire. Selon les estimations de l'ONU, et environ 17% des aliments produits dans le monde sont jetés chaque année. Et ce chiffre dépasse cette norme pendant les jours fériés. Le sapin de Noël à son tour. Chaque année, des millions de foyers choisissent un sapin de Noël. Un sapin naturel génère environ 3,1 kg de CO2 par an, si l'on tient compte de sa production et de son transport. Un sapin artificiel génère environ 8,1 kg. Si l'on tient compte des matériaux de la production, mais seulement si l'on utilise un sapin pendant environ 6 ans. En réalité, tout le monde ne conserve pas les sapins artificiels aussi longtemps. Leur impact est donc beaucoup plus important qu'il n'y paraît à première vue. Les déchets. La frénésie de consommation de Noël est à l'origine d'une explosion des déchets. Pendant les fêtes, la quantité de déchets augmente en moyenne de 20%. Un cadeau sur trois reste inutilisé. Pour ma part, je reçois tout le temps des cadeaux achetés en magasin et très peu de cadeaux fabriqués ou faits main. Et vous ?
Je suis assez d'accord que ça pollue, etc. On a souvent des cadeaux achetés et pas trop fabriqués main. Mais moi et la plupart de ma famille, on essaye de fabriquer les objets pour pas trop en acheter. Mais c'est sûr que vu que je fais un certain sport, on est obligé d'acheter des affaires vu qu'elles vont se dégrader. Et que,
mais tu utilises ouais. Quoi ?
Oui, elles vont être utilisées, mais donc on va en acheter, logique. Mais du coup, les cadeaux pour tout ce qui est...
Jouer pour enfants, quoi.
Ouais, jouer pour enfants, etc. C'est mieux de les fabriquer, mais pas trop. Genre, faudrait en acheter, mais sans plus.
Personnellement aussi, on va plutôt acheter des cadeaux en magasin, parce que, par exemple, j'aime beaucoup les mangas ou quoi que ce soit, et c'est assez simple. Mais après, quand tu dis dans ta chronique que ça pollue énormément, je peux comprendre, mais si on commence à trop se priver des choses comme ça, ça peut devenir limite triste, parce que Noël, c'est limite la fête où tu offres des cadeaux à tout le monde, tu fais plaisir à ta famille ou quoi que ce soit. C'est la fête où tu fais ça. Tant que c'est pas des dépenses comme ça sur toute l'année, je peux comprendre. Mais je pense que Noël ou un anniversaire, c'est la seule fête où tu vas offrir des cadeaux.
Mais après, il faut pas trop non plus de cadeaux fabriqués. Oui. Il faut essayer d'en faire soi-même.
Oui, c'est bien d'en faire soi-même. Mais après, c'est aussi la seule fête où tu vas avoir...
Après, on peut vraiment revenir sur la pollution. Oui, ça va être triste de plus acheter les jouets comme ça. Mais si on achète des jouets, on aide le fabricant à se faire de l'argent et faire de l'argent à ses employés. Donc oui, ça pollue, mais ça fait de l'argent à des personnes.
Parlons maintenant des décorations et des illuminations. La lumière qui éteint en entier la nature. Les lumières de Noël sont une source de joie, mais aussi d'énormes consommations d'électricité. En France, la consommation atteint 75 gigahertz en décembre et aux États-Unis, 6,6 milliards de kilowattheures. Cela équivaut à la consommation annuelle de centaines de milliers de foyers. Outre l'énergie, les guirlandes et les décorations de Noël créent une pollution lumineuse qui perturbe le comportement des insectes et des animaux nocturnes. Même si les chiffres sont effrayants, ça ne sert à rien de chercher des coupables. L'important, c'est de connaître et de proposer des alternatives plus responsables, mais qui gardent l'esprit de Noël. On peut décorer le sapin avec des matériaux recyclés ou ce que l'on a sous la main. On peut aussi planifier nos repas afin de ne pas avoir de reste. Choisir les moyens de transport à faible empreinte, le train ou bien le covoiturage. On peut aussi économiser sur les illuminations, utiliser des guirlandes LED et éteindre les lumières en dehors de la soirée. Dans certains magasins, il y a des boîtes où vous pouvez déposer des petits cadeaux non emballés qui seront donnés au Secours Populaire Français. De quoi donner un petit peu de magie pendant les fêtes pour les plus démunis et c'est gratuit. Je vous propose des petits DIY et pour ces idées déco-écolo, j'ai ce qu'il vous faut. Pour des décos de table sympa, on a besoin d'un bouchon en liège et de brindilles. Piquez le bouchon avec des cure-dents, puis y passez les brindilles. On peut aussi prendre une pomme de pin et la peindre en vert, puis dessiner des étoiles et les coller sur la pomme de pain. Ou alors, on peut prendre une peau de clémentine, on l'aplatit et il est coupé en étoiles. On peut les coller sur un fil et voilà une guirlande parfumée. Elle ne fera pas de lumière, mais embaumera toute votre maison. On peut aussi fabriquer des boules de Noël détournées. Tu peux fabriquer des boules en papier avec un vieux livre ou d'anciens magazines. Découpe 6 disques de même taille et plie-les en deux. Colle la moitié sur un disque. Quand 3 disques sont assemblés, ajoute un fil. Puis faire la même chose avec les 3 disques suivants et le tour est joué.
Merci Cléa. Une autre question qui agite notre club web radio et qui peut faire débat. Qu'est-ce qu'on pense d'offrir un animal à Noël ? Place à une discussion libre entre l'INSEE, Raphaël et Alphonse.
Alors, offrir un animal à Noël, oui, mais il faut respecter des conditions. Offrir un animal à Noël a toujours été un cadeau prisé des Français. Néanmoins, ce phénomène peut amener à des abandons une fois l'effet de mode passé. C'est ce que redoute la SPA. Déjà, il faut prendre en charge à la personne à qui vous l'offrez, car il aura besoin de beaucoup, beaucoup d'attention et de soins. Qu'est-ce que vous en pensez ?
En soi, c'est bien, mais ça, si on l'offre à un ado de 10, 15 ans, ça va. Mais si c'est pour des tout-petits qui de 11 mois, etc.
Qui découvrent le monde.
Oui, voilà. C'est moins bien parce qu'ils ne peuvent pas trop donner d'attention et tout ça parce qu'ils sont petits et qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Alors que des ados de 10 à 15 ans, ils connaissent mieux. Et
ils peuvent le prendre en charge. Voilà. Ils
peuvent le sortir, peuvent leur donner à manger et tout. Enfin...
Un enfant qui découvre la vie, lui, sans doute, il ne pourra pas car... au contraire, il s'amusera avec et encore plus si c'est un chiot, ça peut arriver que même à un moment le chiot mord de l'enfant et que ça peut nuire à des abandons, voire même à l'extrême à de la maltraitance animale. Donc il faut toujours voir prévenir pour que déjà l'enfant soit concentré, c'est-à-dire que c'est pas un objet quoi. Donc
j'ai une question, c'est que du coup, vous dites compliqué pour les enfants plus jeunes et ok pour les adolescents, mais pendant que vous êtes au collège, pendant que vous êtes à vos activités, tout ça, qui s'occupe de l'animal du coup ?
Évidemment que c'est plus compliqué si on a un chien, parce que le chien, il faut qu'on l'aide. Mais encore, s'il a de la nourriture à la maison, je pense qu'il peut rester une journée tout seul à s'autogérer. Mais un chat, après, c'est pas compliqué non plus. Tu peux le mettre dehors et puis il survit, quoi.
Oui, mais si c'est un chiot, il va pas se gérer tout seul. Et les chats, il y a les voitures, il y a la route, etc. Donc il peut pas vraiment survivre tout seul, quoi. Les chats, ils sortent dehors, mais ils reviennent le soir. Mais s'ils reviennent pas, tu peux t'imaginer tous les scénarios possibles. Ils peuvent s'être fait écraser, s'être fait voler, s'être...
Après aussi, pendant les vacances, quand tu pars une semaine à deux semaines... Ton chat, ton chien, n'importe quel animal, il va avoir besoin de quelqu'un au moins une fois dans la journée pour pouvoir avoir de la présence. Par exemple, moi, quand j'avais mon chat, quand on partait en vacances, toujours il y avait la voisine, elle venait pour voir si le chat allait bien, lui donner de l'eau et à manger aussi.
Moi, c'était pour mes poules. Je demandais toujours aux proches, à ma famille, s'ils pouvaient venir... les nourrir, quoi, parce que c'est pareil, on parle des chiens, oui, mais il faut aussi parler aussi des autres animaux qui en ont aussi besoin.
Moi, je reviens à ce qu'elle a dit, Kylia, mais regarde, les chiens, on va pas... Enfin, perso, mon chien, je le prends tout le temps avec moi quand je pars en vacances. Et les chats, j'essaye de demander à des amis de mes parents, de ma voisine ou quoi, pour venir s'en occuper. Mais mon chien, je le prends tout le temps avec moi. Enfin, lui, il peut venir parce que c'est plus simple de l'emmener parce qu'il n'a pas besoin d'être dans une cage. Mais alors que les chats, ils vont être dans une cage, ils ne vont pas forcément aimer le transport.
Du coup, ce serait quoi un peu la conclusion de tout ça ?
Moi, je dirais que oui, c'est bien d'offrir un animal à Noël, mais à condition que la personne à qui on l'offre soit assez grande pour comprendre les responsabilités que ça engendre d'avoir un animal de compagnie et qu'il faut aussi qu'il soit prêt à s'en occuper.
Oui, on peut l'en offrir, mais à un certain âge de la personne. Après, si c'est une vieille personne de 80 ans, pour lui tenir compagnie, il ne faut pas trop avoir un chiot parce que... Voilà, mais un chien qui vient de la SPA, par exemple, qui ça fait quelques années qu'il est là et qu'il veut sortir, on peut lui offrir un chien qui vient de la ISPA pour lui tenir compagnie, quoi.
Moi, je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau ou juste comme ça en famille, mais il ne faut pas non plus mettre toute la responsabilité sur l'enfant, même s'il est assez grand. Par exemple, si c'était quelqu'un de mon âge qui a 14 ans et qui reçoit un chien ou un chiot ou n'importe quoi, il ne faut pas lui mettre... faut pas que les parents lui mettent toute la responsabilité dessus et il faut que les parents, oui, voilà, qui s'occupent un peu aussi, qui se partagent les tâches.
Et pour en revenir sur toi, du coup, Raphaël, est-ce qu'on t'a fait changer d'avis ou est-ce que tu gardes ton opinion sur ça?
Vu ce que j'ai devant ma fille, je pense que c'est vous qui allez changer d'avis, car en France, environ 61% de personnes en France possèdent un animal de compagnie en 2024. La part des chiens et ou chats est estimée à 55%, reflétant une forme d'engouement malgré des taux d'abandon encore élevés. Les chiffres varient selon les sources, mais entre 300 000 et 345 000 animaux abandonnés chaque année en France.
Merci pour vos avis, vos arguments et vos expériences autour de cette grande question. Faut-il, oui ou non, offrir un animal à Noël? Une chose est sûre, un animal n'est jamais un simple cadeau, c'est un vrai engagement. Et puisqu'on parle d'animaux et de fêtes, on va maintenant plonger dans l'univers d'un animal qui, lui, fait rêver petits et grands chaque année, les rennes du Père Noël.
Tous les enfants ont déjà entendu parler du célèbre renne au nez rouge dans l'histoire du Père Noël. C'est le fameux Rudolf. Si on demande à une personne de décrire Rudolf, ça sera celui qui voit dans la nuit à travers la neige. Il y a même de nombreux pulls en son honneur. Mais vous êtes moins nombreux à connaître le nombre exact de rennes que le Père Noël possède. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous pensez qu'il y a combien de rennes qui tirent le traîneau du Père Noël à la nuit de Noël?
12.
Je pense qu'il y en a 7.
Je dirais 12 aussi, ou une dizaine en tout cas.
Il y a traditionnellement 8 rennes attelées au traîneau du Père Noël, mais il y en a un 9e qui est venu s'ajouter au troupeau, le renne Rudolf. Celui-ci a apparu en 1939. Chaque renne possède un trait de personnalité singulier. Tornade serait par exemple le plus rapide des rennes du Père Noël. Quant à Comète, il serait le renne qui apporte le plus de bonheur aux enfants. La légende des rennes du Père Noël serait tirée d'un très vieux poème anglais intitulé « Une visite du Saint-Nicolas » qui parle d'un vieil homme conduisant un traîneau tiré par 8 rennes. On dit aussi qu'il y a très longtemps, le Père Noël ne distribuait des cadeaux qu'aux enfants des pays du Grand Nord. Plus jeune, il faisait ses tournées en raquette. Puis son secteur s'endit à la terre entière. Le Père Noël propose alors au fameux Rudolf de devenir son associé et pour le convaincre, il lui offre un pouvoir magique, celui de voler. Le renne qui a toujours rêvé de voir le monde accepte son offre. C'est depuis ce temps-là que les rennes tirent le traîneau du Père Noël. Mais les connaissez-vous? Ils ont tous un prénom différent. Selon la langue, Tornade est le plus rapide, Danseur le plus gracieux, Fury et Fringant le plus puissant, Comète qui apporte le bonheur aux enfants, Cupidon qui amène l'amour, Tonnerre qui est le plus fort, qui apporte aussi la lumière, et le dernier prénom est des rappres, une chanson populaire aux États-Unis. Et voilà que vous avez maintenant presque tous ces incroyables rennes qui accompagnent le Père Noël dans son grand voyage autour du monde. De Tornade à Rudolf, chaque sa personnalité et sa petite touche magique. Mais il reste une question importante. À votre avis, est-ce que tout ça est vrai?
Non, parce que moi personnellement, je crois pas au Père Noël, donc je crois pas non plus.
Moi je dis, il n'y a pas eu de preuve qu'il n'existait pas.
Bah, franchement, on peut pas être sûr qu'il existe pas, mais bon, des rennes qui volent, voilà, j'y crois pas trop, quoi.
Quand j'étais petit, je pense quand on était tous petits, d'ailleurs, on y croyait tous, mais bon, là, on a... Chacun fait comme il veut. Alors moi, je fais, si vous y croyez, croisez en vos rêves.
Bah, moi, je dis aussi, après, si on croit aux rennes qui volent, on doit aussi croire au Père Noël qui livre à peu près 1000 cadeaux par seconde. Donc, c'est pas crédible, ça.
Moi, je dis, il y a plusieurs Pères Noël, hein, depuis le début.
Oui, allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, allez.
Ouais, voilà.
Le Père Noël, c'est un alien aussi.
Qui sait?
Eh bien justement, ne bougez pas, on part maintenant à la découverte du vrai monde des reines. Préparez-vous, on passe de la magie à la réalité. Le renne est un animal qui vit dans la région très froide du nord en Transylvanie, en Sibérie, au Canada ou encore en Alaska. Il vit au grand troupeau et peut parcourir des milliers de kilomètres chaque année. Côté nourriture, il mange surtout des herbes, des champignons et en hiver, son plat préféré, les lichen, qu'il trouve sous la neige grâce à son excellent odorat. Un renne peut vivre entre 12 et 15 ans et il supporte parfaitement le froid grâce à son épais pelage. Petite particularité, c'est le seul cervidé dont les mâles et les femelles ont des bois. Les mâles les perdent à l'automne tandis que les femelles les gardent souvent jusqu'à la fin de l'hiver pour protéger leur nourriture.
Et voilà pour cette plongée au pays du Père Noël et de ses reines magiques. Maintenant que nous avons la tête dans la neige et les étoiles, on va rester dans le froid mais changer complètement d'hémisphère. Au pôle sud, c'est un tout autre monde. Et là-bas, les vraies stars, ce ne sont pas les reines, mais les manchots. Alphonse nous emmène maintenant découvrir cet oiseau étonnant. Préparez vos bonnets, on file en Antarctique. Alphonse, c'est à toi.
Donc, je vais vous parler des manchots. Donc, déjà, il faut savoir que les manchots sont des animaux et des oiseaux, plus particulièrement. Des oiseaux de la famille des Sphénicidés. C'est une grande famille qui regroupe toutes leurs espèces, comme le manchot empereur, le gorfou ou bien encore le manchot papou. La plupart de ces espèces vivent en Antarctique ou dans des régions proches parce qu'ils préfèrent vivre dans le grand froid. Donc, il ne faut pas confondre les pingouins et les manchots parce que même s'ils se ressemblent, c'est pas du tout la même chose. Parce que déjà, les pingouins appartiennent pas à la même famille, la grande famille des espèces. Ils font partie de la famille des Alcidés. Mais aussi, ils habitent dans l'Antarctique, donc c'est totalement à l'autre pôle. Et enfin, la plus grande différence, c'est que les manchots savent nager, mais ne savent pas voler, alors que les pingouins savent voler, mais pas nager. Il faut aussi savoir que les manchots, ils n'ont pas une vie facile, parce qu'ils ont déjà beaucoup de prédateurs, comme le phoque léopard, qui peut manger jusqu'à 15 manchots par jour, ce qui fait un bon chiffre déjà. Ou l'orque encore, quand ils sont dans l'eau. Mais même sur la terre ferme, ils ne sont pas à l'abri parce qu'ils peuvent aussi se faire attaquer par les différents oiseaux comme le pétrel, les goléands, mais aussi par d'autres animaux comme les renards, les chats. En fait, ils se font manger par beaucoup de prédateurs. Ensuite, les manchots, ils ne peuvent pas vivre seuls parce qu'ils sont obligés de vivre en colonie pour pouvoir survivre. Il a besoin d'autres membres de son espèce pour différentes tâches comme élever les petits quand ils partent pêcher en mer. Parce que tous les manchots, quand ils font un enfant, ils le mettent dans une seule nurserie commune. Et du coup, ils se sont élevés par plein de manchots. Mais les parents ne voient la plupart du temps pas leurs petits quand ils partent les pêcher pour les nourrir en mer. Parce qu'ils peuvent passer plus de 75% de leur vie dans l'eau plutôt que sur terre. Une colonie peut avoir au moins une centaine de milliers de couples de manchots. Il faut savoir aussi qu'ils se nourrissent principalement de krill, de calamars et de poissons. Donc le krill, c'est des petits planctons dont se nourrissent les baleines. Chaque espèce a ses propres spécificités, ce qui, dans un sens, réduit la concurrence sur les espèces. La quantité de nourriture nécessaire à un manchot est variable selon l'espèce, l'âge, la variété et la quantité de nourriture disponible dans chaque région. Donc chaque espèce de manchot n'aura pas la même alimentation. Des études avaient montré qu'une colonie de 5 millions de manchots adélie, donc une de ces espèces, peut quotidiennement manger 8 millions de kilos de krill. Ça qui fait une quantité énorme. Et également des petits poissons. Tous les ans, les manchots jeûnent aussi, donc ils arrêtent de manger, soit pour la saison des amours, pour ne pas quitter leur nid, pour être sûr que si une femelle ou un mâle passe, ils pourront être sûrs de la voir ou le voir. Et aussi pour faire une meilleure parade nuptiale, pour attirer le plus de d'oiseaux du sexe opposé. Ils jeûnent également pour faire leur mue ou pour pondre un œuf, parce qu'ils sont obligés de rester sur leur nid pour pondre. Et une fois que leur poussin a éclos, il faut qu'ils aillent chercher la nourriture pour lui redonner, donc ils ne peuvent pas la manger toujours pas. Donc ils passent plusieurs mois sans manger. Et, par exemple, les mâles manchots empereurs, pendant la saison des amours, ils peuvent jeûner jusqu'à 90 à 120 jours.
Voilà, notre émission spéciale Noël touche déjà à sa fin. Un grand merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses du club Web Radio du collège Loutre-Intanel pour leur idée, leur recherche et leur bonne humeur. On vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes pleines de joie. Et peut-être même un peu de magie de Noël en partant des rennes ou des manchots. On se retrouve à 15 d'hiver sur la radio des ados de la radio pour de nouvelles aventures sonores. Joyeux Noël à tous et bonnes vacances!